J'aimerais parler sur les deux maisons dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. La vie que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Nous aurions très bien pu ne jamais exister, mais voilà, nous avons eu ce cadeau. On n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes une personne que Dieu a créée et il vous aime et il a un plan pour chacun de nous. Alors, en tant que créature de Dieu, nous devons chercher à bâtir notre vie sur les valeurs sûres, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Le diable va tout faire pour vous dévaloriser, pour vous malmener. Peut-être vous avez été méprisé, rejeté. Un jour, il y a un enfant qui a trouvé une pièce de 1 euro dans la boue. Cette pièce était toute rayée et abîmée. Mais en réalité, quand il l'a nettoyée, il a pu l'utiliser et cette pièce avait toujours la valeur de 1 euro. Même si elle était sale, même si elle avait été couverte de boue, même si elle avait été jetée dans le caniveau, une fois qu'elle était réhabilitée, en fait, sa valeur n'avait jamais changé. C'était sa condition qui avait changé, mais elle avait toujours une grande valeur. Une valeur de 1 euro. Et cette valeur-là, ce n'est pas la boue qui lui a enlevé. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous avons bâti notre vie sur le Seigneur Jésus, peut-être on sera malmené, bousculé, jeté dans la boue, mais notre valeur, elle reste identique, c'est-à-dire elle reste une valeur importante aux yeux de Dieu. Comment maintenant bien réussir sa vie ? Quand je dis réussir sa vie, je ne parle pas de réussir dans la vie. Si vous avez réussi dans la vie, c'est très bien. Si vous avez réussi, vous avez eu de grands biens, vous avez des propriétés, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le critère qui est mis en avant dans la parole de Dieu. Pour réussir sa vie dans la parole de Dieu, bien, c'est les valeurs spirituelles qui vont être prioritaires. Est-ce que vous avez mis Dieu à la première place dans votre vie ? Je prends l'exemple de Luc chapitre 12, verset 21. Où nous avons un homme qui a réussi dans la vie, qui est devenu très riche, qui avait des grands biens, des grandes propriétés, qui avait amassé donc dans des greniers, il avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais le Seigneur lui dit, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans Luc 12, 21, il est dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà la différence entre réussir dans la vie, il a amassé des trésors, il a réussi aux yeux de ce monde. Dans les valeurs du monde, c'est l'argent, c'est la richesse. Mais il n'est pas riche pour Dieu. Ça, ce sont les valeurs spirituelles que Dieu met en avant. Et on peut dire qu'il n'a pas réussi sa vie parce qu'il n'a pas mis Dieu au centre de sa vie. Cet homme, oui, était admiré. Cet homme pouvait avoir des amis, des connaissances parce qu'il avait des grands biens. Donc, il avait un certain statut, une certaine reconnaissance, il était admiré, il avait réussi dans la vie. Mais pour Dieu, il n'avait pas réussi sa vie parce qu'il était pauvre en ce qui concerne les choses de Dieu. Il n'avait pas de relation spirituelle vivante avec Dieu et finalement, son âme était perdue, son âme était loin de Dieu. Alors, je reviens à ces deux maisons qui vont être construites sur deux terrains différents. D'abord, il y a les fondations. Le premier point, c'est les fondations. On voit ici un homme prudent et un homme insensé. L'homme prudent va bâtir sur le roc, l'insensé va bâtir sur le sable. Eh bien, ça nous parle de deux types de personnes. L'homme prudent représente l'homme spirituel qui aime Dieu et qui reçoit la sagesse de Dieu. Et l'homme insensé qui bâtit sur le sable représente l'homme charnel, attaché au monde et qui aime les valeurs de ce monde. 1 Corinthiens 3,18, donc Paul le dit d'une autre manière, « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'ils deviennent fous, afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc on voit ici qu'il y a une sagesse humaine, mais qui est une folie pour Dieu. Et puis, la sagesse selon Dieu, c'est une folie pour le monde. Donc on ne peut pas être dans les deux camps. Soit on suit Dieu et on va devenir sage spirituellement, ou soit on suit le monde et sa folie, donc on bâtit sur le sable. Et même si on a la sagesse du monde, en tout cas, c'est une folie aux yeux de Dieu. Donc dans le premier exemple, on a un homme qui a bâti sa maison sur le roc, et celui-ci a creusé profondément, dans l'évangile de Luc, c'est dit qu'il a creusé profondément pour atteindre le roc, et ça représente Jésus-Christ. C'est l'image d'une vie où il y a Christ au centre de votre vie, vous avez mis le Seigneur en premier plan. Et c'est cette maison-là qui va tenir quand il va y avoir les vents qui vont souffler, les tempêtes qui vont se lever, cette maison va résister parce que Jésus, en fait, est le roc qui tient cette maison solide. Quant au deuxième, il a choisi de bâtir la maison sur le sable, c'est plus facile, ça va plus vite. À première vue, la maison est construite, donc tout va bien. La réalité, c'est qu'elle n'a pas de fondation, cette vie va être malmenée, elle ne va pas tenir dans la tempête parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus. 1 Corinthiens 3:10, on voit ici un autre exemple que Paul mentionne. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà le fondement qu'il faut poser. Paul a poser ses fondements parce que c'est la base même d'une vie qui va être solide. Si vous n'avez pas le bon fondement, le solide fondement posé, c'est-à-dire à savoir Jésus-Christ, eh bien la maison ne pourra pas tenir, quels que soient les matériaux. Il y a des fois des maisons d'ailleurs qui ont été mal conçues. Ça m'est arrivé dans un déplacement, dans une mission que je faisais, d'être invité chez un particulier dont la maison était en train de s'affaisser parce que les fondations, les fondements n'avaient pas été bien pris en compte. Et finalement, il a fallu aller par-dessous, consolider. Et ça a été très, très compliqué pour réparer quand il y a un problème de fondation. La maison, en fait, s'affaissait. Elle n'avait pas des fondations vraiment aux normes, vraiment solides. Et il y avait un gros, gros, gros problème de réparation. Donc ça peut arriver dans la vie de tous les jours, mais ça peut arriver dans la vie spirituelle, et on le voit quand une personne n'est pas fondée en Christ, eh bien au bout d'un moment ça devient fragile, ça devient dangereux et tout peut s'écrouler. Donc seul Christ est la pierre angulaire, la pierre sur laquelle nous allons bâtir notre vie. Avant de connaître Christ, moi aussi j'ai commencé à faire ma vie mais sans me soucier de Dieu. Donc je peux dire que quand j'ai commencé ma vie, j'avais pas de fondement. J'avais pas mis Christ au centre. Donc j'avais fait mes choix, j'avais fait mes projets, ma volonté, sans me soucier de la volonté de Dieu. Je ne cherchais pas à plaire à Dieu, ni à faire sa volonté. En fait, j'avais bâti ma vie sur le sable. Christ n'était pas au centre, même si j'allais à l'église, même si je chantais des cantiques, je pouvais prier, mais je savais que Christ n'était pas au centre de ma vie, car je faisais ma volonté et non la volonté de Dieu. Donc il y avait un vide dans mon cœur, je n'étais pas heureux, mais jusqu'au jour où j'ai rencontré vraiment Jésus comme mon sauveur, donc ça s'est passé en 1986, dans un camping où je me suis adressé à Dieu, et le dimanche suivant dans l'église, Dieu s'est révélé à mon cœur. Là il y a eu la nouvelle naissance, j'ai accepté Jésus comme Seigneur, on peut dire que je suis reparti à zéro, et là j'ai compris qu'il fallait que je mette Jésus au centre de ma vie, donc j'ai creusé les fondations jusqu'au roc. C'est à partir de ce jour où Jésus est devenu le centre de ma vie. Et j'ai construit ma vie sur ce roc. C'est une décision qu'on doit prendre à un moment donné quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut le mettre au centre de notre vie et bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Donc c'est l'exemple de ce premier homme qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, je vais parler des matériaux, puisqu'on bâtit avec, pour les maisons, c'est des briques, toutes sortes de matériaux, du bois, etc. Et Paul nous parle des matériaux que nous devons utiliser dans notre vie chrétienne. Il y a des bons matériaux et des mauvais matériaux. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, Paul va expliquer qu'il y a quelqu'un qui va bâtir sur ce fondement. Donc, il parle bien du fondement, c'est le bon, maintenant c'est sur Jésus-Christ. On a le bon fondement, mais il y a différents types de matériaux. Certains vont construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. D'autres, ils vont utiliser du bois, du foin ou du chaume. Vous voyez, tout ça, ce sont des matériaux différents. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Il y a donc des vies chrétiennes qui sont bien bâties sur le fondement, mais qui utilisent des matériaux qui sont périssables, comme le foin, le bois, le chaume. Et tout ça, ça représente bien des choses qui sont là pour se mettre en avant ou se faire voir, mais qui vont disparaître dans le feu, parce que le texte dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Mais ceux qui vraiment cherchent les matériaux qui honorent Dieu, qui plaisent à Dieu, qui sont les premiers, les plus de grande valeur, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont les œuvres que nous allons faire pour le Seigneur, pour sa gloire, non pas pour la nôtre, ce sont les bons matériaux, ça va passer par le feu et ça va subsister. Donc même quand on est chrétien, il nous faut avoir les bons matériaux pour notre construction de notre vie spirituelle. Les matériaux, ce sont les œuvres que nous devons faire. Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Et ces bonnes œuvres, c'est servir le Seigneur. Faire des œuvres, c'est utiliser les matériaux spirituels, donc l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ces œuvres-là qui vont faire que la maison tiendra bon. Il y a des choses que nous pouvons faire pour le Seigneur parce que Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités. Eh bien, nous ne devons pas être égoïstes et servir Dieu et se mettre au service des autres. Ça, c'est pour les matériaux et ça nous parle des œuvres chrétiennes que nous devons faire pour le Seigneur. Mais quand vous construisez une maison, vous devez faire appel à un architecte. Un architecte, maintenant, va vous donner les conseils et les plans pour bâtir une bonne maison. Et pour réussir notre vie, nous avons besoin d'un conseiller. Cet architecte, c'est l'image du Saint-Esprit. Autant on a besoin d'un architecte pour une maison qui soit bien construite, autant pour être bien dans la volonté de Dieu et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous éclairer et nous conduire dans les plans de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons la prière et nous avons la communion avec Dieu, et Dieu, dans cette communion, par son esprit, nous révèle ses plans, ses projets pour nous. Si vous avez des enfants et vous demandez à un de vos enfants, vous demandez à votre enfant, « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Votre enfant, il va souvent dire ce qui est bon, ce qui lui semble bon pour lui. Du chocolat, des bonbons, des choses sucrées, c'est parce qu'il aime ces choses-là. Mais nous, parents, nous savons que ces choses ne sont pas très bonnes, en fait, pour lui. Il lui faut de l'équilibre. Il lui faut d'autres aliments, comme des pâtes, comme de la viande ou du poisson, qui vont équilibrer son alimentation. Il lui faut aussi des légumes et du lait, une alimentation qui va être équilibrée pour son développement. Donc, il y a ce que l'enfant, lui, désire et qui n'est pas forcément bon pour lui. Et il y a ce que ses parents savent qui est bon pour lui. Et les parents, ça représente le Saint-Esprit qui va nous dire ce qui est bon pour nous. Nous, on est comme cet enfant, on croit savoir ce qui est bon pour nous et on demande à Dieu toujours des choses que nous pensons qui sont bonnes pour nous. Sauf que Dieu sait que pour notre équilibre, pour notre alimentation globale, il nous faut des choses qui sont bonnes pour nous, et c'est pourquoi il nous faut nous laisser conduire par sa volonté. Je vous donne un exemple concret qui s'est passé dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Abraham vieillissait et Isaac n'était toujours pas marié, et lui aussi Isaac avait atteint un certain âge, et il était temps pour Abraham de chercher une solution pour son fils Isaac, sauf que il n'y avait pas de femme dans le pays où il était, c'était le pays de Canaan, et toutes les femmes c'était des cananéennes. Et Abraham disait, je ne veux pas une femme cananéenne pour mon fils Isaac. Donc il a envoyé Eliezer, son serviteur, à Charan, en Mésopotamie, il y avait beaucoup de distance, parce qu'à Charan, il y avait encore de la famille d'Abraham qui était là. Et il s'est dit, il faut mieux que ce soit une fille qui soit du peuple, de la descendance d'Abraham, donc du peuple élu, du peuple de Dieu, plutôt qu'une cananéenne. Alors, comment trouver la bonne personne ? C'est là où on va voir qu'Éliézer va se laisser conduire par Dieu. Il va donc prendre ses chameaux, il est parti avec ses 10 chameaux, il a fait tout le trajet, et il a prié Dieu, et c'est là où on voit que l'Esprit-Saint va le conduire, Dieu va le conduire vers la bonne personne, puisqu'il va s'arrêter au bord d'un puits, il fait cette prière à Dieu, et il dit, Seigneur, que la jeune fille qui me proposera à boire, et qui proposera aussi à boire à mes chameaux, qui donnera à boire à mes chameaux, ça soit la personne que tu as toi-même choisie pour Isaac, parce que Eliezer ne savait pas qui choisir. Et des fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi choisir, quelle direction prendre, et on a besoin d'une directive de Dieu. Alors c'est une prière assez audacieuse qu'il a faite, il a fait une prière audacieuse, et il attendait là au bord du puits, il avait avec ses 10 chameaux, et une jeune fille arrive qui s'appelle Rebecca, elle propose à boire à cet homme, et ensuite elle dit, je vais donner à boire à tes chameaux. Exactement comme il avait prié quelques instants plus tôt. Et c'était un peu énorme, parce qu'en fait un chameau assoiffé, il peut boire 200 litres d'eau en 3 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a été puisée pour les 10 chameaux. Et elle l'a fait. Et donc c'était un signe que c'était vraiment la direction de Dieu. Ensuite, Eliezer a été conduit chez les parents de Rebecca. Ils ont discuté, ils ont proposé à Rebecca. Rebecca a accepté, elle a accompagné Eliezer. Et finalement, elle s'est mariée avec Isaac. Mais tout ceci pour montrer que ce n'était pas facile de choisir la bonne personne et qu'il fallait aller au bon endroit et que tout ça, ça a été fait par la conduite de Dieu et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire aussi dans notre vie, pour aller dans les bonnes directions et faire les bons choix. Donc ça, c'était l'architecte. On a dit, il y a ces deux maisons, mais nous avons besoin d'un architecte, c'est-à-dire un conseiller qui va nous aider à construire une bonne maison, eh bien nous, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à construire notre vie selon la volonté de Dieu. Et puis enfin, on voit que ces maisons, cette maison que nous bâtissons, elle doit résister dans l'épreuve. Puisque celle construite sur le roc va tenir bon alors que la pluie et les vents ont soufflé, tandis que celle construite sur le sable va s'écrouler. Donc les mêmes épreuves ont frappé les deux maisons. Seule la première résiste, puisqu'elle est fondée sur le seul fondement, Jésus-Christ. Mais on constate que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, on a tous des épreuves. Et l'important, c'est maintenant le fondement et la vie qui est placée en Christ qui va faire la différence. Donc vous serez plus solide, vous serez plus fort si vous avez fait le fondement sur Jésus-Christ. Les épreuves, de toute façon, elles viennent, on ne les choisit pas, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas l'intensité, mais c'est ce qui va faire la différence, c'est si votre vie est vraiment en Christ. Je prends l'exemple de Pierre pour vous montrer comment ça se passe dans sa vie, comment il a mis le fondement Jésus-Christ. D'abord, le fondement, parce qu'à l'origine, Pierre était un pêcheur de poissons, c'était sa, son activité, c'était son métier. Et puis, à un moment donné, Jésus l'appelle à devenir un pêcheur d'hommes. Et là, il va mettre un fondement dans sa vie, ça va être Jésus-Christ. Il va donc se reconnaître pêcheur devant le Seigneur, il va s'agenouiller, il va dire à Jésus « Retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur », ça s'appelle la repentance. Il reconnaît ses péchés, il va laisser de la place dans sa vie à Jésus-Christ, il commence à mettre le fondement « Tu seras un pêcheur d'hommes ». Et là, il va trouver la paix, il va trouver son bonheur, il va trouver la satisfaction en suivant Jésus-Christ, maintenant qui est au centre de sa vie, va devenir un disciple. Il n'a pas suivi un homme, il n'a pas suivi un philosophe ou un homme de ce monde, un guérisseur, il a suivi le Fils de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui, nous ne devons pas suivre un homme, on ne doit pas suivre même un grand prophète, mais on doit suivre Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le fondement. Alors que beaucoup abandonnaient le Seigneur, il avait mis le fondement. Et il a dit, mais à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il avait le fondement. Et lorsque Jésus lui demande, qui suis-je au dire des hommes ? Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Mais lui qui avait le fondement, il dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant, le fondement. Le fondement en Christ vous donnera des paroles inspirées. Alors les matériaux utilisés dans sa vie, eh bien il a compris l'importance de la parole, des paroles du Seigneur qui vont structurer sa vie. En fait, la parole de Dieu que vous avez d'ailleurs, qui contient les 66 livres de la Bible, c'est l'ossature du chrétien. C'est ça qui va vous donner une solidité, une force dans l'épreuve. Alors il écrit comme ça, 1 Pierre chapitre 2 verset 1, c'est Pierre qui parle. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il enseigne ? Il enseigne qu'une fois que vous avez mis Jésus-Christ comme le fondement de votre vie, vous devez désirer le lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la solidité de cette bâtisse. Parce que vous n'aurez jamais une vie spirituelle solide si vous ne lisez pas, si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vous nourrir des messages de ceci, de celui-ci, de celle-ci. Bref, vous allez peut-être vous édifier, mais en tout cas, l'ossature, le fondement, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent écouter des messages ou telle ou telle personne, personnalité, star sur Internet. Ils se nourrissent de messages, mais ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont fragiles et qu'ils vont aller d'un message à l'autre, mais qu'ils n'auront pas acquis de stabilité, de solidité, parce qu'ils vont rester fragiles. Et la Bible dit que certains sont comme ça, flottants, emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi ? Parce qu'ils se nourrissent plus de messages que de la parole de Dieu. C'est très bien les messages, et il faut se nourrir des messages, mais si vous n'avez pas la nourriture de la parole de Dieu, vous êtes fragile, toujours fragile. C'est la parole de Dieu qui va vous donner la force intérieure. Alors, si on ne prend pas le temps de lire la Bible, si on ne prend pas le temps de l'étudier, de la méditer, eh bien en fait, quand tous ces messages vont venir, vous n'avez pas le fondement vraiment de la parole, alors ben, vous allez être séduit par l'un, par l'autre, et peut-être dévié ben, dans une fausse doctrine, mais sans vous en rendre compte. C'est pas que vous voulez le suivre. Mais comme vous n'avez pas la connaissance de la vraie doctrine, ben, vous êtes sensible à tout ce qui peut dévier. Donc vraiment, le lait spirituel est pur, ça reste la parole de Dieu. Donc prenons le temps de la lire tous les jours et de nous nourrir. Quand vous lisez la parole, vous êtes en train de vous fortifier dans votre âme et de résister dans les mauvais jours. Ensuite, pour Pierre, je parlais de l'architecte tout à l'heure. Eh bien, pour Pierre, c'est le Saint-Esprit qui a été son architecte. C'est lui qui l'a conduit. On sait que Pierre avait des résistances à faire la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit l'a bousculé. Pierre était d'origine juive et il ne voulait surtout pas entrer chez un païen parce que pour lui, dans son esprit, sa compréhension, Dieu avait un plan pour les juifs, mais pas pour les païens. Les païens, non. Mais pour les juifs, il y avait le salut et la vie éternelle. Et Dieu a bousculé sa mentalité en lui faisant voir cette vision de nappe avec des animaux impurs et Dieu lui a dit « Tue et mange ». Et Pierre dit « Mais comment ? Je ne peux pas tuer et manger ces animaux parce qu'ils sont impurs selon la loi ». Et c'est là où il a dû accepter de faire la volonté de Dieu. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne vas pas le déclarer impur. Donc, c'est fini. C'est fini. L'ancienne alliance, on tourne la page. Maintenant, c'est la nouvelle alliance et tu peux manger de tout ce qui se vend sur le marché. Et l'Esprit lui dit, va suivre ces hommes qui arrivent, tu vas chez Corneille et là, tu prêches l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, chez un païen, il est allé prêcher l'Évangile. Il a donc été conduit par l'Esprit. Il a donné les paroles que l'Esprit lui donnait de dire. Et en plein milieu de son discours, alors qu'il parlait de Jésus-Christ, crucifié, mort pour les péchés, le Saint-Esprit est descendu sur l'auditoire et tous ces païens que Pierre pensait qu'ils ne pourraient pas se convertir, ils ont donné leur cœur au Seigneur et ont été remplis du Saint-Esprit. Conduits par l'Esprit, ils voient les choses de Dieu s'accomplir. L'architecte a donc dirigé sa vie. Et puis on voit aussi sa résistance au moment de la tentation, puisque Jésus l'avait averti dans Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, donc c'est Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis mes frères. » Et là, on voit que Pierre a chuté au moment de la tentation, ou l'arrestation de Christ. Il y avait un puissant combat spirituel, il a été criblé, c'est-à-dire il a été malmené, il a été bousculé, il a eu peur, il est tombé dans des pièges. Même attaqué, même il a renié le Seigneur, il a menti à une femme en disant « je ne connais même pas Jésus ». Il a même fait des imprécations. Mais quand il a reconnu son péché, il a demandé pardon. Il est revenu et il a pleuré amèrement. Bien sûr, il a fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est Jésus lui dit « quand tu seras revenu ». Donc Jésus savait qu'il allait chuter, mais il savait qu'il allait revenir aussi parce que j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis le fondement, Jésus-Christ, il avait bâti avec les bons matériaux, il avait l'architecte, et maintenant le Seigneur lui a donné cette parole, j'ai prié pour toi. Il y a la main du Seigneur qui nous garde et qui nous permet de revenir. Pierre a été attaqué, il est revenu. Il y a d'autres versions qui disent « quand tu te seras converti, faire demi-tour, revenir dans la bonne direction ». C'est ce qu'il faut faire, revenir au Seigneur. Et quand Pierre est revenu, le Seigneur l'a réhabilité, « paie mes agneaux », trois fois pour les trois reniements. Et puis ensuite, le jour de la Pentecôte, il prêche l'Évangile, 3000 personnes sont touchées, il élève le nom de Jésus. Il va même faire des choses extraordinaires, il va même prier pour une femme qui était morte, qui s'appelait Dorcas. Il va prier pour elle et Dieu va la ressusciter. Il va vivre des choses très puissantes parce qu'il avait vraiment le fondement, Jésus-Christ. Il avait bâti avec les bons matériaux, il avait l'architecte, le Saint-Esprit qui conduisait sa vie. Donc tous les ingrédients pour une vie solide. Et c'est devenu l'apôtre Pierre qui a marqué sa génération, qui a été un témoin puissant pour le Seigneur. À travers cette parabole donc de Jésus, nous voyons bien les ingrédients nécessaires pour bien réussir sa vie, creuser profondément jusqu'au fondement Jésus-Christ, mettre Christ à la première place dans notre vie, utiliser les bons matériaux, faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, faire appel à l'architecte, le Saint-Esprit pour nous diriger, et c'est tous ces ingrédients qui vont faire la solidité de notre vie dans l'épreuve. Nous allons prier quelques instants, que Dieu nous conduise. Merci encore pour ta parole et ces exemples où nous voyons combien, Seigneur, nous pouvons bâtir une vie sur le roc, sur Jésus-Christ, qui tiendra bon dans les épreuves de la vie, dans les tempêtes de la vie. Et nous prions pour que chacun mette Christ au centre de sa vie, bâtisse avec les bons matériaux pour les œuvres que tu as données à chacun d'accomplir, soit conduit par le sage architecte, le Saint-Esprit, pour prendre les bonnes décisions et mettre ta parole à l'honneur dans nos vies pour cette solidité, comme Pierre l'a expérimenté, pour ce lait spirituel et pur qui va être une alimentation de tous les jours, pour nous rendre plus fermes, plus solides dans l'épreuve, étant enracinés en toi. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, afin que nos vies soient à ta gloire, pour l'honneur de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.